C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Bonjour, 100 milliards de dollars, voilà ce que pèse le marché mondial du cacao. Un marché concentré dans les mains de quelques multinationales. 60% de la production vient de deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La demande ne cesse d'augmenter, mais l'essentiel des cacaoculteurs vivent, eux, sous le seuil de pauvreté, à tel point que certains sont obligés de faire travailler leurs enfants. La culture du cacao est aussi liée au problème de la déforestation. Pour cultiver, il faut couper. Après l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse, c'est la France qui a lancé cette semaine une initiative du cacao durable. Est-ce une bonne stratégie ? Nous en parlons tout de suite avec nos invités réunis ici à Montpellier sur le campus du CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Le cacao durable est l'un des sujets qui a été abordé à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir, protéger. Des débats qui ont lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroulera demain.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nous dans ce studio installé donc à Montpellier dans les locaux du CIRAD, 4 invités. Philippe Petit-Huguenin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, directeur général adjoint à la recherche et à la stratégie du CIRAD. Merci de nous accueillir.
Merci à vous pour l'organisation de cette émission.
Avec nous, Abel Gallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cacaoculteur en Côte d'Ivoire et président de l'ONG IDECOCOA. Quel objectif, cette ONG ?
Son objectif, c'est repartir auprès des producteurs et leur donner les informations que nous collectons.
Pour qu'ils soient informés de leur situation ?
Bien entendu.
Voilà, parce que souvent, ils ne se rendent pas compte de tous les sujets dont nous allons parler dans cette émission. Bonjour Laetitia Philippe-Annet.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet à l'ICO. L'ICO, c'est l'Organisation internationale du cacao. Qui joue quel rôle exactement ?
Alors, c'est une organisation intergouvernementale qui joue le rôle donc, de plateforme entre les pays producteurs et les pays exportateurs de cacao. Donc, nous avons diverses activités, des projets. Nous sommes aussi un centre de connaissances, si on peut dire ainsi, parce que nous produisons des statistiques sur le cacao depuis plusieurs années.
Alors avant d'entamer notre discussion, je vous propose d'aller dans les plantations, justement, en Côte d'Ivoire, à Aboudé Mandéké, dans les environs d'Agboville, c'est 100 kilomètres au nord d'Abidjan. C'est là que François Hume Ferkatadji a rencontré un planteur qui nous explique le décalage entre les bonnes intentions de ceux qui gèrent la filière et les réalités du terrain. Parmi les bonnes intentions, l'initiative Cacao et Forêt, qui fait la promotion de l'agroforesterie au sein des parcelles. 4 ans après son lancement, elle a du mal à se mettre en place et vous allez comprendre pourquoi.
Assis sur le seuil de sa petite maison d'Aboudé Mandéké, Richmond Poco vient tout juste de terminer sa journée de travail. Il possède 4 hectares de culture de cacao. Comme l'immense majorité des planteurs, il indique n'en retirer que de faibles revenus, à peine suffisamment pour assurer les besoins basiques de sa famille. Il tient à le rappeler avant chaque prise de parole. Depuis 2 ans, il se soumet toutefois aux nouvelles règles qui visent à promouvoir l'agroforesterie et accepte de confier son expérience à ce sujet.
Il y a ma coopérative qui nous donne certains arbres pour planter dans nos différentes plantations. Quelques arbres comme le bois acpi, l'amandier et ainsi de suite. Personnellement, moi-même, j'ai décidé de faire au moins 1 hectare de reboisement.
50 nouveaux arbres plantés sur 1 hectare de jachère, soit 1/4 de ces terres arables. Si les coopératives incitent les cultivateurs à planter de nouvelles espèces d'arbres dans leurs champs, les cacaoculteurs ivoiriens ne comprennent pas toujours les nouvelles règles qui les privent d'arbres rémunérateurs pour d'autres espèces dont ils ne peuvent pas tirer profit. Richmond Poco.
Ça a changé parce qu'il y a certains bois que actuellement on nous propose que nous ne connaissons pas. Sinon qu'en Côte d'Ivoire, pratiquement dans les plantations de cacaoyers, on plante de l'avocatier, des mandariniers, des orangers, juste pour pouvoir manger et puis vendre. Mais ces différents bois, je pense que c'est pour la biodiversité. Et puis bon. Donc quand tu dis à un planteur de détruire là et puis de détruire au moins 2 pieds de cacao ou bien 2 pieds de caféier et puis planter un arbre, il se voit choqué. Puisque chaque semaine, sa femme doit prendre ça pour venir vendre. Voilà, ils survivent avec.
De la même façon, Richmond Poco explique que l'objectif d'atteindre 30 à 50% d'ombre sur l'ensemble de la plantation est très difficile à tenir, car les planteurs cultivent de l'igname ou du maïs dans leurs champs, entre les lignes de cacaoyers, une source de revenus complémentaire jugée indispensable et qui laisse peu d'espace pour la plantation de grands arbres dans l'ensemble de la culture.
C'est compliqué. Puisque le planteur en Côte d'Ivoire fait d'abord le champ d'igname, et c'est en fonction des buts d'igname qui met le cacaoyer. Donc on peut faire un but ici à 5 cm. Donc la partie qui n'est pas assez développée, c'est par là qu'il y a planté.
D'autre part, certaines recommandations liées au nouveau système d'agroforesterie créent des désaccords avec les planteurs. C'est le cas du colatier qui n'est plus recommandé dans les plantations. Mais pour les cultivateurs, il est à la fois source de revenus et partie prenante de la culture traditionnelle.
Éliminer le colatier, ça pose problème. Puisque le colatier, ça s'utilise en Côte d'Ivoire, en Afrique. On a besoin de colatiers pour faire des dots dans certaines religions. Donc, beaucoup de planteurs n'acceptent pas. N'acceptent pas parce que, il faut détruire peut-être le colatier qui lui donne 10, 20 kilos, 100 kilos et ça lui donne de l'argent. Donc, quand on lui dit d'être détruit, lui, ça ne l'arrange pas.
Enfin, le système de certification n'est pas toujours compris par les planteurs. Certes, le cacao certifié est légèrement mieux rémunéré, mais pour Richmond Poco, cette prime à la certification, 30 francs CFA de plus par kilo, ne lui est attribuée que 3 mois dans l'année, d'octobre à décembre.
Autrement, 2 ans, peut-être, ça fait 2 mois ou 3 mois. Et pourtant, il y a au moins 3 ou 4 cueillettes dans la grande saison. Si c'est la certification, il faut laisser tout le temps aux planteurs de cueillir son cacao et d'englober ça dans la certification.
De façon générale, les règles d'agroforesterie sont très peu respectées dans les faits en raison des difficultés de mise en application sur le terrain et du taux de pauvreté des planteurs. Et surtout, ces efforts paraissent vains alors que la déforestation se poursuit en Côte d'Ivoire. Près d'un tiers du cacao récolté dans le pays provient toujours de forêts classées selon l'ONG Mighty Earth. François Imferkataji, de retour de la région d'Agboville, RFI.
Abel Gallo, nous reviendrons sur les enjeux de la déforestation plus tard dans cette émission. Mais comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage de Richmond Poco? On entend en fait que chaque morceau de la parcelle finalement doit être exploité pour la survie de la famille.
Bien sûr, en Côte d'Ivoire, faire une plantation, c'est d'abord commencer par la culture vivrière et par la suite on met du cacao. Et donc, cet espace cultivable, il est partagé entre le cacao et les cultures vivrières. Et c'est à cet espace qu'il faut ajouter l'agroforesterie. Donc, cette combinaison, le planteur a besoin de comprendre. Sinon, il n'y s'y engage pas. Et quand bien même lui-même, il faisait déjà de l'agroforesterie, surtout avec du vivrier, ou bien avec des manguiers, des avocatiers, pour lui, c'était de l'agroforesterie. Mais cette fois-ci, on lui demande de mettre d'autres arbres qui sont différents de ceux auxquels il est habitué. Et donc, quand on lui demande de mettre des akbis, l'akbis, déjà, c'est pas mal parce que le fruit des akbis sont vendus par les femmes. Mais quand vous lui demandez de mettre un framilé, un fraqué, ça devient difficile pour lui. Mais au-delà de ça, en Côte d'Ivoire, la loi sur l'arbre, elle n'est pas encore mieux connue du planteur. Parce que quand vous avez un arbre dans votre champ, un exploitant forestier peut venir vous l'enlever à tout moment. Et donc, vous n'avez pas d'éléments qui vous permettent de protéger. Même le certificat de certification de votre plantation n'empêche pas l'exploitant forestier de vous enlever l'arbre. Donc, quand vous demandez à un planteur de mettre un arbre qui répond aux besoins de l'exploitant forestier, c'est sûr qu'il va vous dire...
Il ne voit pas son intérêt.
Voilà, il ne voit pas son intérêt.
Et comme ils sont dans une grande précarité, ça on l'a bien compris, évidemment, il faut que ça rapporte, ce soit des arbres rémunérateurs, comme dit Richmond Poco, et puis c'est aussi la pharmacie de la famille.
Oui, le planteur, il garde un arbre dans son champ parce que ça a plusieurs possibilités. Il l'utilise pour se soigner, il l'utilise par moment pour nourrir les animaux. Et donc, il faut bien que ça réponde à ses objectifs.
Philippe Petit-Huguenin, on entend la grande précarité dans laquelle vit ce planteur Richmond Poco. Comment est-ce qu'on explique que sur le prix d'une tablette de chocolat vendue en Europe, il y a seulement entre 5 et 10% qui revient au planteur?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans une tablette de chocolat, même si on prend un chocolat noir, on a en gros 60% de la masse de ce qu'on achète qui sont des fèves de cacao. Le reste, c'est du sucre, essentiellement. Et puis, dans ces 60%, On est parti d'une fève de cacao. Et il y a eu plusieurs étapes de transformation et donc de valeur ajoutée. Alors, beaucoup se passe hors des pays producteurs, mais de plus en plus, les premières étapes de transformation se passent dans les pays producteurs. Donc, il y a une partie de la valeur ajoutée qui est retenue, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Ghana, mais qui n'est pas au bord champ, qui n'est pas chez le producteur lui-même. Et puis, il y a aussi une part importante du prix d'une tablette de chocolat qui est la TVA. Qui est la promotion, la publicité qu'il faut faire, le marketing, le packaging, etc. Donc, ça n'est pas que le cas du cacao. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de produits alimentaires, ça n'est pas une exception, mais ça explique la complexité et la difficulté pour les consommateurs de comprendre dans leur acte d'achat comment ils vont contribuer aussi à soutenir le développement durable d'un agriculteur qui est très loin et que souvent, voilà, on ne connaît pas.
Alors Laetitia Philippanet, il y a de nombreuses initiatives pour essayer d'augmenter la rémunération des producteurs, comme par exemple le différentiel de revenus décent qui a été initié récemment par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe et nous dire si ça fonctionne ?
Alors le principe du différentiel, effectivement, le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont mis d'accord pour ajouter $400 la tonne sur le prix donc du marché, le prix international. Et donc, ces $400 devraient normalement être payés par les industriels et être reversés donc aux producteurs.
Donc, globalement, il y a beaucoup d'initiatives. Mais c'est vrai que là, par exemple, la campagne débute en Côte d'Ivoire et les producteurs savent déjà qu'ils seront payés 20% de moins que l'année dernière. Donc, ça veut dire quoi ? Toutes les initiatives qui sont prises ne marchent pas ?
Toutes les initiatives qui sont prises ne sont pas coordonnées. Toutes les initiatives sont... C'est-à-dire qu'on a plusieurs initiatives. Donc, on est au niveau des entreprises. Elles ont leurs propres initiatives. Au niveau des pays, il y a aussi... donc, vous le savez, la France a récemment signé donc, l'initiative pour le cacao durable.
Semaine.
Mais avant, on avait aussi la Suisse. On avait aussi l'Allemagne. On a aussi la Belgique.
Les Pays-Bas.
Donc voilà, tous ces pays ont des initiatives et bon, ils essayent de plus en plus de fédérer les acteurs parce qu'il y a plusieurs initiatives qui disent chacun donc mettre en place une certification, mettre en place des systèmes pour pouvoir améliorer la durabilité, mais en pratique, elles ne sont pas coordonnées et donc les résultats, on n'a pas de résultats tangibles. À ce jour, dans la filière.
Abel Gallo, l'initiative française sur le cacao durable a comme objectif d'améliorer le revenu des agriculteurs, enfin des cacaoculteurs d'ici 2030 et d'accélérer la lutte contre le travail des enfants dans les approvisionnements de la filière d'ici 2025. Est-ce que ça vous semble réaliste ?
Déjà, il faut qu'on parte des initiatives qui ont déjà eu lieu. Moi, je parle tout simplement du principe de la certification qui devait normalement apporter un plus-value au prix du planteur. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, je certifie qu'il n'y a pas plus de 20% de coopératives de planteurs. On a des coopératives d'acteurs économiques et non pas des coopératives de planteurs.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est qu'il faut bien que des planteurs se mettent ensemble pour mettre une coopérative sur pied. Et c'est cette coopérative sur pied qui non seulement va appliquer le prix bord champ, mais qui, quand elle vend à l'usine, va se faire une marge de 80 francs par kilo. Et ces 80 francs par kilo sont reversés aux producteurs pour leur fonctionnement. Et en marge des charges de la coopérative, il va
Donc ça fonctionne ?
Ça ne fonctionne pas. C'est malheureusement cette marge de 80 francs qui est gardée par celui-là qui est le président de la coopérative. Donc ça n'arrive pas aux planteurs. Maintenant, quand on passe cette étape économique, on arrive au niveau de la prime de certification. Par exemple, vous prenez le certificat Fairtrade, vous avez $200. Mais $200, il y en a combien qui arrivent aux planteurs ?
Alors ?
Toute cette marge-là, elle est gardée par la coopérative.
Mais donc, ça veut dire que moi, par exemple, quand j'achète en France une plaque de chocolat issue du commerce équitable, j'enrichis un responsable de coopérative, mais ce que j'investis dans... Enfin, mon choix, c'est plutôt de me dire, ça soulage ma conscience, ça va aller directement aux planteurs, et en fait, je me trompe.
Bien sûr, vous vous trompez, parce que vous arrivez en Côte d'Ivoire, un PCA qui a maximum 5 hectares, 10 hectares de cacao, après qu'il soit devenu PCA... Il a Il a 5 ans pour se retrouver avec plein de terrains qu'il achète à 5 millions. Ensuite, des véhicules 4x4 de type flambant neuf. Donc, ce n'est pas le revenu de son cacao de 5 hectares qui lui permet d'y arriver. Vous avez des PCA de coopérative.
C'est quoi les PCA?
Le président du conseil d'administration de la coopérative.
Ah, voilà. Voilà.
Et quand il meurt, c'est son petit frère qui prend la présidence. Or, il devait avoir une élection pour qu'il y ait un nouveau PCA. Malheureusement, c'est son petit frère qui prend. Donc, c'est un business de famille, ce n'est pas une affaire de planteur.
Donc, Philippe Petit-Huguenin, là, on va se faire beaucoup de copains avec les gens qui travaillent dans le commerce équitable avec cette émission et le témoignage d'Abel Gallo.
C'est un témoignage qui vient du terrain, de ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où il y a des coopératives qui fonctionnent, qu'il n'y a pas des endroits où certaines coopératives et le président de la coopérative jouent le jeu d'un système démocratique et redistribue. Et voilà, à chaque fois, on peut regarder le verre entre à moitié plein ou à moitié vide. Ce qui me semble important, c'est d'apprendre des expériences où ça fonctionne bien, parce qu'il y en a quelques-unes. Elles sont malheureusement, on pourrait dire, minoritaires aujourd'hui, mais essayons d'apprendre de ces expériences pour les diffuser. Et on voit bien qu'il y a un enjeu très important de transparence et de passage de l'information. Certains pays insistent, par exemple, sur la communication. Quel est le prix international du cacao? On peut avoir cette information tous les jours, toutes les semaines, de façon à ce que le planteur sache qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Sur ces signes, ces fameuses certifications, et Abel Gallo, vous le disiez très bien, c'est parfois difficile pour un agriculteur de comprendre quelle est la différence entre tel et tel type de certification, et on crée de la confusion, et des personnes mal intentionnées utilisent cette confusion pour leur propre bénéfice. Plus de transparence dans le système, une meilleure information, et l'ICO, par exemple, y contribue, doit être un élément pour généraliser les bonnes pratiques et éviter ceux qui détournent l'intérêt du système.
Alors, autre problématique liée à la culture du cacao, la déforestation, nous en parlons juste après. Alpha Blondie qui chante Café Cacao dans C'est pas du vent sur RFI.
Sega, 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 sega
Alpha Blondie, café, cacao dans ses pas du vent sur RFI. Nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir, protéger. Des débats qui ont lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroulera demain. Et parmi les sujets traités, le cacao durable. Alors nous avons vu que les producteurs de cacao étaient sous-payés. Ils touchent entre 5 et 10% du prix de la tablette vendue en Europe. Mais comme la demande est plus forte chaque année, l'envie de produire reste elle aussi la plus forte. Et cela se traduit par une déforestation massive, comme le démontre ce reportage réalisé par François Oumferkataji pour nos collègues d'Arte dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans la forêt de Bossématier, censée être classée par les autorités.
Ce site est classé, il faut faire passer le message avec les moyens du bord. Depuis 3 ans, des habitants de plusieurs villages limitrophes de la forêt de Bossématier, dans l'est de la Côte d'Ivoire, se mobilisent pour protéger leur forêt. Ils effectuent régulièrement des visites improvisées pour empêcher l'installation de travailleurs illégaux. Car ici, depuis une décennie et tout particulièrement depuis l'année dernière, la déforestation s'intensifie. Il serait près de 3000 travailleurs agricoles, principalement venus du Burkina, à camper illégalement dans la zone pour y planter du cacao. Ce jour-là, l'équipe est accompagnée d'un gendarme et d'un policier. À notre arrivée, des exploitants prennent peur et disparaissent dans les sous-bois. Anne Bilé Modeste est le secrétaire général de ce comité militant. Après ses études d'histoire à Abidjan, il est revenu dans son village natal pour documenter la disparition de la forêt. Il s'inquiète du désastre écologique en cours.
Lorsque quelqu'un arrive de loin, il voit une forêt, c'est bien beau, il y a une forêt à Bébou. En réalité, il n'y a rien. La forêt est détruite. Aujourd'hui, en venant là, si nous n'étions pas rentrés par cette piste, on aurait tous cru que la forêt était là. Les arbres, de loin, on voit des grands arbres. Mais en y pénétrant, c'est une clairière.
Où on est là, il ne pleut pas. On a besoin de l'eau. On a besoin des arbres. On a besoin des lianes pour soigner les enfants. C'est ça aussi, c'est l'écorce des bois. On prend pour faire des médicaments. Quand ils vont finir, quand ils vont tout tuer, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va vivre dans ce pays?
Cri d'alarme aussi de ce spécialiste de la filière. Selon lui, près du tiers du cacao ivoirien serait toujours issu de ces zones protégées, censées être inhabitées et non cultivées. Les Pays-Bas, les États-Unis et l'Allemagne comptent parmi les premiers pays importateurs.
Il n'y a pas une fève de cacao qui sort de cette forêt de la Bossématier, comme de toutes les forêts classées du pays, qui n'arrive pas au port, hein, bien sûr. L'histoire de la traçabilité qui est mise en avant par l'industrie du chocolat est la deuxième arnaque, qui est cohérente avec la première arnaque, qui est de dire qu'on reforeste la Côte d'Ivoire.
Modeste et son comité vont continuer à se battre pour préserver ce qui reste des 22 000 km² de la forêt de Bossématier. Mais au rythme actuel de déforestation, les experts estiment qu'elle aura entièrement disparu d'ici 5 à 10 ans.
Abel Gallo, on entendait François Ruff dans ce reportage qui est aussi chercheur au CIRAD et avec lequel vous travaillez depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cette forêt de Bossématier?
Voici de cela 6 à 7 mois que j'ai commencé à travailler sur cette forêt, la forêt classée de la Bossématier qui est située dans le sud d'Abengourou, précisément dans la sous-préfecture des Aranons. C'est une forêt qui fait pratiquement 22 000 hectares. Et qui avait été protégé par le passé par KSW, GIZ et autres, toutes ces structures, jusqu'à ce qu'on arrive à la faveur de la crise de Côte d'Ivoire. Et depuis cette crise, il n'y a plus de surveillance. Et donc, cette forêt, elle a commencé à être infiltrée. Et donc, des individus qui ont fait la guerre, d'autres qui sont venus du Burkina, se sont installés et ils ont commencé à vendre la forêt à d'autres Burkinabés. Et même à d'autres Ivoiriens. Alors, quand nous sommes allés, on a commencé à faire nos enquêtes et j'ai commencé par rencontrer les jeunes Burkinabés, des jeunes Baoulés qui m'ont dit un hectare, c'était 150 000 francs qu'ils payaient et par la suite, ils partaient s'installer dans la brousse. En dehors de ce que vous devez travailler pour vous-même, vous devez travailler 2 jours pour la personne qui vous a vendu de la forêt Et les autres jours, il y a des jours où on ne vend pas en brousse, on ne travaille pas la brousse parce que c'est des interdits de la tradition. Et donc, il ne vous restait seulement que 2 à 3 jours pour vous-même. Et ceux qui refusaient ou bien qui n'arrivaient pas à suivre le rythme se faisaient battre.
C'est toujours actuel, cette situation.
Oui, bien sûr. Mais je suis en train de raconter un fait. Et nous avons fait des démarches. J'ai dans un premier temps commencé à organiser la jeunesse autour de cette forêt pour créer une association pour protéger cette forêt. Et ils ont eu maintenant un récépissé, qui, après le dépôt de leur dossier à la sous-préfecture des Aranous, ils ont maintenant un récépissé, donc ils peuvent travailler pour aider à la protection. En ce moment bien précis, ils sont en train de refaire la limite autour de cette forêt et nous envisageons de mettre des pancartes pour signifier que cette forêt est une forêt classée. Nous avons remonté l'information jusqu'à la primature pour faire en sorte que chacun soit au courant de cette affaire. Nous avons organisé plusieurs rencontres là-dessus et je pense que le Premier ministre nous a promis de faire en sorte que cette forêt soit débarrassée de tous ces infiltrés.
Philippe Petit-Huguenin, la déforestation, ça fait partie finalement de l'histoire du développement de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Hein, c'est la base du miracle ivoirien promis par le président Félix Houphouët-Boigny dans les années 60. Seulement aujourd'hui, ça a pris évidemment des proportions massives puisque la Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier, pas uniquement à cause du cacao, mais en grande partie, et ça, on vient de l'entendre, ça continue de façon sévère. Malgré les engagements de la Côte d'Ivoire qui dit qu'elle veut reforester au moins de 20% son territoire.
Oui, je pense qu'il est important de regarder cette dynamique historique et peut-être aussi de se rendre compte que, on parle là de la Côte d'Ivoire, mais on pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres pays producteurs de cacao, le voisin Ghana et puis d'autres pays même sur d'autres continents. Peut-être rappeler à vos auditeurs que le cacaoyer est une plante originaire d'Amazonie, c'est une plante de la forêt tropicale, et donc c'est son milieu, là où elle est parfaitement adaptée, c'est ce milieu de la forêt. Et le cacaoyer est une plante qui finalement, à force, avec un petit peu de défrichement d'une forêt et à l'installation, par exemple, de bananiers plantains pour commencer à faire des cultures vévrières, on fait vivre sa famille et on plante, Abel Gallo le rappelait, au pied des buttes d'igname, des quelques fèves de cacao qui, au bout de quelques années, donneront une plantation. Donc, à partir du moment où une personne peut se déplacer, aller dans un espace forestier et défricher et implanter, il va se créer un capital, il va créer une plantation. Donc, c'est vrai que cette déforestation ou le remplacement d'une forêt primaire par un couvert forestier, parce que des cacaoyers, c'est aussi un couvert forestier. Hein. Ce sont des arbres de 10-15 mètres de haut hein, pour des gens qui n'ont jamais vu un cacaoyer. C'est pas juste de l'herbe, ce sont aussi des arbres. Ça a été effectivement le mouvement qui a soutenu historiquement le développement de la cacaoculture. Et je dirais, depuis la domestication du cacao, et depuis, si vous regardez dans les statistiques que, par exemple, l'ICCO tient, quels sont les pays qui ont été premiers producteurs mondiaux de cacao depuis qu'on a des statistiques, depuis le 19e siècle? Eh bien, on est passé du Venezuela à Trinidad, de Trinidad à Sao Tomé, de Sao Tomé au Ghana, du Ghana à la Côte d'Ivoire. Donc, la cacaoculture se déplace parce qu'elle se déplace en suivant les hommes et les femmes qui vont dans la forêt et qui commencent à défricher. Donc, c'est une réalité historique. Et je serais toujours prudent de vouloir jeter la pierre à l'un plus qu'à l'autre, puisque c'est une réalité. Aujourd'hui, la question, c'est pouvons-nous inventer un autre modèle de développement de la cacaoculture qui ne soit plus dépendant de cette forêt, puisque, comme on le disait, tant qu'il restera des espaces forestiers, et aujourd'hui, c'est dans les forêts classées, parce que le reste de la forêt a, pour l'essentiel, disparu, eh bien, la pression est très forte sur ces forêts. Je pense que certains pays, aujourd'hui, sont un petit peu moins dans le regard international que ne l'est la Côte d'Ivoire, parce que leurs espaces forestiers sont plus grands, parce que ce n'est pas forcément des forêts qui sont classées, qui sont enregistrées, mais le même phénomène se produit aujourd'hui. Population se déplaçant, défrichement de la forêt, et on se crée un capital. Et il faut dire quand même que... En tant que cacaoculteur, peut-être Abel peut en témoigner, les premières années, lorsqu'on a une plantation qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut bien vivre de ce revenu, parce qu'on a finalement... Le revenu, c'est le rendement moins les charges de production et multiplié par le prix. Et il se trouve que, même à prix constant, une jeune plantation produit plus et demande moins de travail. La difficulté aujourd'hui pour un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, c'est que quand les plantations sont vieillissantes, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, ça coûte beaucoup de travail pour récolter un rendement plus faible. Et donc, on a intérêt à aller rechercher et quitte à prendre des risques, à aller dans une forêt classée pour repartir sur un nouveau verger.
Alors, Laetitia Philippanet, comment est-ce que vous abordez ce problème à l'ICAO, l'Organisation internationale du cacao ?
Alors, nous, on pense déjà que pour que le cacaoculteur, c'est vrai, il faut des systèmes plus résilients, c'est vrai, il faut plus d'agroforesterie et tout ça. Mais pour mettre en place ces systèmes, pour pouvoir changer, pour pouvoir investir, le cacaoculteur aura besoin d'un revenu plus élevé. Donc, il faut absolument travailler sur comment augmenter le revenu du producteur. Tant que le revenu du producteur sera faible, tant que le producteur vivra dans les conditions de précarité dans lesquelles il est en ce moment, il sera difficile de mettre en place des nouveaux systèmes, de changer son système actuel. Il faut améliorer le revenu du producteur et pour ça, il faut déjà regarder aussi au niveau du prix international, qu'est-ce qui peut être fait. Le revenu est en grande partie composé du prix international sur le marché international, donc les marchés de New York et de Londres, qui est ce prix qui est référencé sur ces marchés et il est le résultat de l'offre et de la demande de cacao. Or, vous savez que cette demande est excédentaire. À la dernière campagne de cacao qui vient de s'achever, la campagne 2021, l'offre a atteint 5 millions de tonnes.
Donc, c'est l'offre qui est excédentaire.
Voilà, pardon, l'offre est excédentaire. Et là, donc, la demande reste derrière l'offre. Donc, tant qu'il y aura ce déséquilibre, c'est en grande partie responsable déjà du revenu. Donc, il faudrait travailler déjà sur l'offre. Voir qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce qu'il faut faire des stockages du cacao au niveau des produits exportateurs. Est-ce qu'il faut travailler aussi au niveau de la demande ? Est-ce qu'il faut promouvoir la demande ? Elle tend à stagner dans les pays traditionnels, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, parce que la population aussi ne croit plus autant. Donc, est-ce qu'il faut regarder vers d'autres marchés ? Donc, il y a plusieurs raisons. La valeur ajoutée est-elle aussi mal répartie ? Au niveau de la filière, avec d'un côté donc, les distributeurs, les chocolatiers, les industriels qui ont une grosse partie de cette valeur. Et donc, il faudrait aussi travailler à avoir un peu plus de valeur ajoutée au niveau des producteurs, à ce qu'ils aient un peu plus d'opportunités de ce côté-là aussi. Donc, on pense qu'il faut travailler aussi sur le revenu si on veut améliorer, parce que le facteur reste quand même très économique quand on écoute les producteurs pour faire ces changements. Ils disent, mais oui, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter ? À la fin de la journée, il faudrait qu'ils puissent vivre. Voilà.
Abel Gallo, quand l'initiative française pour le cacao durable lancée cette semaine annonce comme objectif de mettre fin à l'importation de cacao issu de la déforestation d'ici 2025, vous y croyez ?
Non, c'est juste une annonce, parce que le planteur, pendant qu'on fait cette annonce, le planteur, lui, il est en pleine forêt, il n'a pas RFI, il n'a pas de réseau de communication, donc il n'entend pas toutes ces annonces. Voilà, et parce que nous-mêmes, nous sommes pratiquement à 1 kilomètre du niveau du producteur, et c'est difficile pour nous de faire chose. Je viens à peine du Libéria, ça fait une semaine que j'y étais. J'ai rencontré plus de 600 personnes qui ont traversé le Kavali pour aller faire du cacao. Le gouvernement libérien, en ce moment bien précis, après 15 ans de guerre, il n'y a pas de voie d'accès. Donc, ils ne savent même pas que les gens sont en train d'infiltrer. Le 30 octobre 2018, le président Georges Weah était au Burkina pour demander officiellement l'arrivée des Burkinabés sur son territoire. Mais il n'y a aucune structuration qui est faite pour capter l'arrivée des gens, pour créer des couloirs, afin que, même si on devait faire du cacao, qu'on puisse préserver déjà le minimum en termes de forêt. Il est possible de faire du cacao, mais en respectant les normes de la forêt, tout simplement. Voilà. Et puis en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, elle était en train de parler du revenu du paysan. Je reprends la chose pour dire... Il faut que la coopérative soit l'affaire des producteurs. Et la coopérative ne doit pas être seulement un acteur qui va chercher du cacao et qui l'envoie à l'exportateur. Non, ça doit passer à une autre étape. Il faut que la coopérative devienne un espace qui embauche les enfants des producteurs revenus de l'école. Ça doit être un espace où, quand on ne peut pas aller sur un autre front pionnier, le peu qu'on produit, transformé au plan local, puisse griller la compensation qu'on aurait pu faire en allant sur un front pionnier. Malheureusement, les coopératives ne sont pas dans cette perspective. Donc, les coopératives ne sont pas accompagnées. Si aujourd'hui vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est un combat nouveau dans lequel l'ONG Idécocoa se lance, c'est sensibiliser le planteur pour qu'il se rende compte que c'est quand ils sont en association, quand ils sont en coopérative, qu'ils gagnent. Ce que le PCA, le président du conseil d'administration de la soi-disant coopérative, gagne, les richesses qui se font, les biens qu'il acquiert, c'est les membres de la coopérative qui vont l'avoir. Et c'est quand le fils du planteur sait que son père a une assurance maladie, qu'il a un prêt immobilier, qu'il peut avoir un prêt scolaire pour subventionner une bourse d'études pour son fils, alors le fils, il est prêt à intégrer le processus de cacao. Et quand la femme sait que c'est grâce au cacao que son mari assure le minimum pour la famille, alors tout le monde se retrouve autour de la fève de cacao. Et ils sont d'ailleurs prêts à adopter, je dirais, l'agroécologie, toutes les nouvelles normes, parce que le revenu qui est annoncé sur le marché, en réalité, c'est parce qu'il n'arrive pas là que le planteur cherche encore une plus-value. 200 dollars, il y a combien de planteurs en Côte d'Ivoire qui savent ce que c'est que le prix compensatoire?
Personne.
Personne. Des fois même, on leur dit, c'est un bonus. Oui. J'étais à Grabo, j'ai vu un planteur qui m'a dit, il a fait 4 tonnes de cacao, mais on lui a donné 20 000 francs. Ils ont mis ça dans une enveloppe, on dit, bon, c'est ta prime, c'est ton bonus. 20 000 francs pour 4 tonnes de cacao.
Alors que la prime compensatoire, il faut expliquer ce que c'est.
Voilà. Vous avez, il arrive que le pays, la Côte d'Ivoire annonce, donne un prix qui devait être, qui est moins que ce que la Côte d'Ivoire devait donner. Par exemple, au lieu de 1 000 francs, en tenant compte des calculs avec le prix du marché, la Côte d'Ivoire devait donner 1 000 francs, mais dit 800 francs. Donc, Fairtrade, d'autres institutions, d'autres structures ajoutent un prix là-dessus pour combler ce manque à gagner que la Côte d'Ivoire a réduit par rapport au prix international. Mais combien de planteurs savent que l'État, ces institutions ont fait des efforts et qu'ils doivent en bénéficier? Peu ne le savent pas.
Si, les présidents du conseil d'administration des coopératives. Le président du conseil d'administration,
il sait. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart des responsables de projets dans les coopératives sont des informaticiens. Ceux qui sont capables de manipuler les chiffres.
Mmh. Voilà. Et d'avoir accès à Internet et voilà, de suivre d'avoir toute cette actualité.
De remplir. Mmh. Donc, combien de planteurs qui ont un contrat signé? Donc, c'est tout ça. Si on arrive à donner le pouvoir véritablement aux coopératives, allons-y sur le terrain, sensibilisons, donnons le pouvoir aux coopératives. Et quand ils vont se mettre ensemble, qu'ils vont faire une véritable coopérative, ils auront trois bénéfices. Le prix compensatoire, ils auront la marge bord champ usine, ils auront aussi la prime de certification. Ajouté au prix d'achat, c'est vraiment suffisant pour qu'un planteur accepte l'agroécologie.
Voilà des pistes de solutions pour produire réellement du cacao durable. Il y en a d'autres, nous en parlons juste après ça.
Je suis méga son sinapan, l'arrivée gramoun, la tisane, la babon. Dans la case, la chasse, nous n'est tous les ans. Je suis méga, trouve la raison. Maïla, il veut pipousser dans la terre, nana, la poison. La rivière si où veut la pêche, la malheur, là aussi la pluie camaron. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe là, tisane pour Kuyali. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe là, tisane pour Kuyali. Et on qui connaît que les tremble le matin, la lumière se sont flamboyant. Il est Dieu, les connaît, lire aussi dans la main, il raconte à autre part. Heureusement vous faites nous bonheur si la terre Maloya elle est toujours à l'heure. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe là, tisane pour Kuyali. Danse Maloya pour mettre l'ordre là-dedans juste minuit. Passe Maloya la pointe là, tisane pour Kuyali. L'arrivée gramoun, la tisane, la babon. Dans la case, la chasse, nous n'est pas tous les ans. Je dis, mais va trouver la
terre, nana, la poison. La rivière, si où veut la pêche, la malheur, là aussi, la pluie de camaron. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Passe Maloya, la pointe, la tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Passe Maloya, la pointe, la tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Passe Maloya, la pointe, la tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle, tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle, tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle, tisane pour Piali.
Michou avec Maloya, ton tisane dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débats autour du thème soigner, nourrir et protéger. Des débats qui ont lieu en amont du sommet Afrique-France qui se déroulera demain. Parmi les sujets traités, le cacao durable. Kumba Maïkone, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes chercheuse en technologie alimentaire à l'université Nangui à Brogoua d'Abidjan. Vous travaillez sur le goût du chocolat. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment on fabrique du chocolat déjà ?
Tout d'abord, le chocolat commence déjà depuis le champ. Au niveau du champ, nous avons d'abord la récolte des cabosses. Et une fois que les cabosses sont récoltées, il y a l'écabossage qui consiste à extraire les fèves à l'intérieur de la cabosse. Une fois ces fèves extraites, on passe à l'étape de la fermentation. Et au cours de la fermentation, en fait, les fèves sont placées soit en tas dans des feuilles de bananier ou dans des caisses en bois. Et cette fermentation dure autour de 5 à 7 jours selon les variétés de cacao, avec souvent la pratique de brassage ou non selon le producteur. Une fois ces 7 jours passés, ces 7 jours de fermentation passés, on passe à l'étape du séchage. Et ce séchage se fait soit sur des clairs, soit sur des aires cimentées ou des bâches plastiques et dure environ 1 à 4 semaines.
Et après, une fois que les fèves sont sèches ?
Une fois que les fèves sont séchées, maintenant, on a notre cacao fermenté séché qui va passer à l'usine. Et une fois à l'usine, on a l'étape de la torréfaction qui est le fait de griller les fèves de cacao. Mmh. Puis on va décortiquer, enlever la coque autour de la fève. Cette fève va ensuite broyer, malaxer. Et on va concher, tempérer pour ensuite mouler le chocolat qui est obtenu.
Alors, ce qui est intéressant dans ce processus de fabrication, c'est que, en fait, il y a plusieurs étapes qui dépendent de la qualité de l'environnement dans laquelle ce processus se passe. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que si l'environnement autour des plantations et de toute la filière pour fabriquer du chocolat se dégrade, c'est le produit même qui se dégrade.
Oui, effectivement. Déjà, comme conséquence de la déforestation, on peut dire qu'il y a d'abord la dégradation du microbiote. Le microbiote, en fait, c'est les micro-organismes qui rentrent dans la fermentation du chocolat. Donc déjà, on a ces micro-organismes-là qui ne seront plus présents pour pouvoir bien fermenter le chocolat et leur apporter l'arôme qu'il faut. Ensuite, on a le manque de raffia qui permet la fabrication des clés sur lesquelles se fait le séchage. Et aussi le manque de feuilles de bananier qui sont des supports de la fermentation du cacao. Ces feuilles de bananier, en fait, ont la particularité de contenir, en fait, sur leur surface interne, ce microbiote-là qui permet la fermentation du cacao, qui initie, en fait, la fermentation du cacao. Donc, si une fois que tout cela est détruit, en fait, on a un cacao de mauvaise qualité qui va entraîner un chocolat vraiment pas bon.
Voilà, on comprend bien à travers cette explication, Philippe Petit-Huguenin, que en fait, le chocolat qui est le produit final du cacao, c'est quand même tout un écosystème.
Oui, et c'est un écosystème qui part, comme on dit, du bord champ, qui part de l'exploitation agricole. Et c'est vrai que lorsque l'on... Si on compare, c'est comme un producteur de vin. On récolte du raisin et sur place, on presse, on fermente, on met en barrique. Et la qualité du vin, elle se fait là. De la même façon, la qualité du chocolat, elle part de cette phase de fermentation séchage. Si on n'a pas bien fermenté le cacao, ça n'a pas le goût de chocolat. C'est aussi simple que ça. Alors après, l'industrie derrière, elle ajoute beaucoup d'autres qualités. On parle du conchage, le fait que le chocolat, nous aimions que notre chocolat soit brillant, qu'il se casse bien. Donc ça, c'est des caractéristiques aux différentes étapes de la qualité du produit qui sont ajoutées. Mais à la base, c'est bien les bonnes conditions de fermentation et séchage qui sont clés.
Kumba Maikone, est-ce qu'on peut différencier, du coup, est-ce qu'il y a des histoires de terroir entre un cacao issu de l'agroforesterie, par exemple, et un cacao issu d'une plantation plus conventionnelle, comme on dit?
Bon, pour l'heure, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas encore parler d'effet terroir. On peut peut-être parler de zone géographique. Donc, notre étude, justement, se base, on cherche à savoir si, selon la zone géographique, est-ce qu'on peut avoir différentes sortes de cacao, en fait, en termes de qualité aromatique. Et c'est sur cela qu'on travaille actuellement avec l'équipe du professeur Gaïta Gro.
Donc, les études sont en cours et je pense que ça peut servir d'argument supplémentaire pour développer l'agroforesterie. Donc, pour conclure cette émission, Abel Gallo, les modes de production de cacao, on l'a compris, ne sont pas optimales pour le goût du chocolat. Ils ne rémunèrent pas dignement les producteurs. Ils créent une déforestation massive en Côte d'Ivoire, au Ghana, plus récemment au Libéria. Ça commence, le Libéria qui se lance donc dans cette culture. Alors, quelles sont pour vous rapidement les pistes de solutions à explorer? Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait que les producteurs s'approprient davantage les coopératives. Et puis?
Oui, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Il faut que les producteurs s'approprient les coopératives pour en faire une entreprise. Et là, elle va être la solution pour mettre en place tout le processus souhaité pour être à la hauteur de la demande du marché. Malheureusement, le président du conseil d'administration, donc le PCA de la coopérative fictive, lui, il a des engagements vis-à-vis des industriels, mais le planteur qui, lui, est à la lisière de la coopérative, il ne se sent pas concerné par ce processus. Et donc, quand les planteurs vont s'approprier ce processus, ils vont devenir les vrais propriétaires des coopératives, je vous assure qu'ils seront au rendez-vous de l'agroécologie. Voilà. Tout à l'heure, Mme Kumba l'a dit, vous voyez, la certification a donné du bois, des arbres pour planter, mais ils n'ont jamais pensé à donner des raffias. Ils n'ont jamais étudié quelle est la variété de banane qui peut résister, même si ce n'est plus après forêt, pour qu'on puisse continuer de fermenter dans les feuilles de banane.
En fait, il y a une méconnaissance,
réelle
de la filière entre ceux qui décident et ceux qui produisent.
Bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons des projets avec le CIRAD où il est question de traquer les innovations paysannes qu'on peut promouvoir. Et c'est ça, c'est à partir de là qu'on peut tracer un nouveau label de certification qui permet de faire un label de concertation et non pas un label préfabriqué dans un bureau quelconque pour aller le faire appliquer en milieu paysan.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. On a bien compris qu'il faudrait faire 2, 3, 4 émissions sur le cacao. Nous en ferons d'autres. En tout cas, c'était bien intéressant de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de la filière, au-delà des déclarations politiques qui, certaines fois, sont assez ambitieuses et déconnectées du terrain. Merci à tous donc d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Littérature.